VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 17h à Ouagadougou et à Conakry. Bienvenue dans notre journal. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré a été inculpé de crimes contre l'humanité. C'est ce qu'a annoncé vendredi, donc aujourd'hui, le directeur de la justice militaire, le colonel Sita Sangaré. Le général Diendéré, ancien bras droit de l'ex-président Blaise Compaoré, chassé par la rue en octobre 2014, avait pris les rênes du pouvoir le 17 septembre, au lendemain de la prise d'otage du président et du gouvernement de transition par le régiment de sécurité présidentielle. Bagassi Koura est notre envoyé spécial à Ouagadougou. Bagassi, pouvez-vous nous en dire plus sur ces inculpations ?
Oui, c'était la toute première conférence de Sita Sangaré, le tout nouveau directeur de la justice militaire. Il a annoncé qu'après plusieurs semaines d'investigation, 23 personnes ont été inculpées dans l'affaire du coup d'État du 16 septembre dernier. Parmi elles figure en premier lieu le général Gilbert Diendéré, le chef putschiste, qui a été inculpé de crimes contre l'humanité et de 10 autres chefs d'accusation. Il risque la peine de mort, souligne Sita Sangaré, qui rappelle que la peine capitale n'est pas encore abolie au Burkina Faso. Quant à l'ancien chef de la diplomatie de Blaise Compaoré, le général Djibril Bassolé, il est inculpé de 6 chefs d'accusation. Parmi les civils inculpés, il y a Léonce Kone du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès de Blaise Compaoré, et Herman Yamrego, également de l'ancienne mouvance présidentielle. Sita Sangaré a également signalé que la femme du chef putschiste, l'ancienne députée Fatou Diendéré, aujourd'hui en fuite au Togo, est également dans le collimateur de la justice. Sita Sangaré a aussi confirmé qu'il y a bien eu perquisition au domicile privé de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Le coup d'État de septembre dernier a fait, selon un bilan officiel, 14 morts et quelques 250 blessés.
C'était Bagassi Koura, notre envoyé spécial à Ouagadougou. En Guinée, le président sortant Alpha Condé s'achemine vers une réélection au premier tour de la présidentielle. Réélection déjà récusée par l'opposition qui crie à la fraude et prévoit de la contester par tous les moyens autorisés. Les derniers développements avec Eric Manirakiza.
La communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme inquiètent du risque de violence post-électorale fréquente en Guinée, exhortent les candidats à régler leurs litiges devant les tribunaux et non dans la rue. Selon les résultats provisoires partiels proclamés ces deux derniers jours par la Commission électorale nationale indépendante, Alpha Condé obtenait 1,95 million de voix, soit environ 60% des suffrages exprimés sur plus des trois quarts des électeurs inscrits. Les derniers résultats attendus ce soir concernent les deux communes les plus peuplées de Conakry, dont les banlieues favorables à l'opposition, ainsi que les préfectures de Pita, dans le centre, et de Kindia, à l'est de la capitale, et de quelques ambassades à l'étranger. La commission électorale ayant donné une estimation de participation moyenne de 75%, la majorité absolue des suffrages devrait avoisiner les 2,25 millions de voix telles que le rapporte l'AFP. Les Guinéens ont voté dans le calme le 11 octobre, mais sous tension, la campagne de M. Condé visant une réélection au premier tour. Un objectif jugé par ses adversaires irréalisable sans fraude caractérisée 5 ans après sa victoire à l'arraché au second tour sur le chef de l'opposition, Sélou Dalein Diallo.
Et toujours en Guinée, cette nouvelle décevante, 2 nouveaux cas d'Ebola ont été enregistrés d'après l'OMS. Le pays n'avait plus détecté de nouveaux cas depuis 2 semaines. Direction le Nigeria à présent, berceau de Boko Haram, la ville de Maïdougouri est depuis plusieurs semaines la cible d'une vague d'attaques suicides qui ont fait des dizaines de morts. Rien que pour ces dernières 24 heures, 34 personnes ont été tuées dans 2 séries d'attentats suicides dans la capitale de l'État de Borno. Vendredi donc à l'aube, ce matin, 3 femmes kamikazes se sont fait exploser dans le faubourg d'Oumarari, dans la banlieue ouest de la ville, tuant 4 personnes et en blessant 17. Plus de de détails avec Michel Joseph.
Les explosions de ce matin à l'aube ont eu lieu après deux attentats suicides qui ont fait une trentaine de morts dans une mosquée de Maïdougouri, capitale de l'État de Borno. Selon les responsables de services de secours, les explosions à la mosquée ont été programmées de telle sorte que la seconde a tué beaucoup de personnes volant au secours des victimes de la première. Des dizaines de personnes ont été également blessées. On soupçonne Boko Haram d'être responsable de cette vague d'attentats suicides dans le nord-est du Nigeria. Les militants islamistes nigérians ont lancé plusieurs attaques transfrontalières dans la région. Et mercredi, le président Barack Obama a annoncé l'envoi de militaires américains au Cameroun pour des missions de reconnaissance aérienne en appui aux efforts conjoints du Nigeria, du Tchad, du Cameroun, du Bénin et du Niger pour éradiquer la menace Boko Haram. Selon Amnesty International, ce groupe a tué au moins 1600 civils depuis le début de juin et plus de 3500 en 2015.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Et le reste de l'actualité dans le monde, nouveau drame à Calais en France, un migrant est mort hier dans l'Eurotunnel en tentant de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Les détails avec notre envoyé spécial Nicolas Pinault.
Oui, le drame s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi. Il était 2h15 du matin sur le site d'Eurotunnel. Un train de marchandises arrivant d'Angleterre est arrivé sur le site. C'est à ce moment-là que le migrant a essayé de monter sur ce train. Et malheureusement pour lui, il a été happé par le train. Les secours sont formels. Impossible de savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, tant le corps a été déchiqueté par ce train. Malheureusement, il s'agit de la 16e personne qui est décédée en tentant de traverser le tunnel sous la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Déjà, mercredi soir, une femme avait été écrasée par une voiture, toujours sur ce même site, cette fois sur l'autoroute. Et on rappelle qu'à côté de ce site d'Eurotunnel, il y a ce fameux site appelé la jungle, dans lequel s'entassent 4 à 5 000 personnes qui espèrent toutes pouvoir traverser et se rendre en Angleterre. Depuis Calais en France, Nicolas Pinault, VOA Afrique.
Et la tension continue de monter. En Israël, des protestataires palestiniens ont incendié des parties du tombeau de Joseph en Cisjordanie. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui des officiels israéliens en ce, je les cite, « vendredi de la révolution » appelé par les groupes palestiniens. Idrissa Sedoudia.
Une centaine de Palestiniens ont usé de cocktails Molotov pour brûler ce lieu sacré juif à Naplouse. Ils ont été dispersés par les forces de sécurité palestiniennes qui ont ensuite éteint l'incendie. L'armée israélienne prendra toutes les mesures nécessaires pour traduire en justice les auteurs de cet acte méprisable et restaurer le site et faire en sorte que la liberté de culte revienne au tombeau de Joseph, a dit le porte-parole Peter Lerner. Un tel acte est une insulte à notre culture, notre religion et nos valeurs morales, a déclaré de son côté le président palestinien Mahmoud Abbas en promettant de former immédiatement une commission d'enquête. Aujourd'hui, et selon l'AFP, citant les autorités de la bande de Gaza, un Palestinien a été tué par des tirs israéliens lors de heurts près de la frontière avec Israël. Depuis 2 semaines, une série d'attaques perpétrées par les Palestiniens, essentiellement des agressions à l'arme blanche, ont coûté la vie à 7 Israéliens et au moins 31 Palestiniens ont été tués par l'armée et la police israélienne, certains pendant des manifestations et d'autres pendant ces agressions.
Et nous sommes maintenant dans les ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, inquiets de voir des milliers de leurs ressortissants rejoindre les rangs du groupe État islamique. Ces républiques, ces ex-républiques soviétiques soutiennent sans état d'âme les frappes aériennes russes en Syrie. Vladimir Poutine et les chefs d'État de l'Ouzbékistan, du Kazakhstan, du Tadjikistan et du Kyrgyzstan et du Turkménistan se sont réunis aujourd'hui à Astana pour un sommet régional marqué par l'intervention russe en Russie. Enfin, la Fédération anglaise de foot a suspendu son soutien à Michel Platini en tant que candidat à la présidence de la FIFA, et ce, jusqu'à la fin des procédures judiciaires en cours. C'est la première fédération européenne à retirer officiellement son soutien à Michel Platini. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans 20 minutes pour notre édition du soir Le Monde Aujourd'hui, présentée par Morgane Guériec et Eric Manirakiza. Restez avec nous 24 heures sur 24 sur notre site internet voafrique.com et sur notre page Facebook. Très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.